Les Amours Malades, chapitre 8. Michael n'était pas encore là quand je partis pour ma visite. Son retard, qui en réalité n'en était pas un, m'étonna. Nous avions l'habitude d'arriver de bonne heure et de parler de nos patients avant de les visiter. Nous nous informions auprès du personnel infirmier d'éventuelles nouvelles entrées ou d'événements particuliers ayant eu lieu durant la nuit. Nous faisions la même chose vers midi, à la lumière du résultat des divers examens. Nous ne revoyons pas ensemble tous nos cas, naturellement, mais ceux qui posaient les problèmes plus difficiles tant au niveau médical qu'au niveau humain. J'aimais ces moments de tranquillité. Nous pouvions réfléchir sans masque, appeler un chat, sans déguiser la vérité, sans la peur de trop révéler ou de blesser un malade, avec ce qui pouvait lui sembler de la hâte, de l'indifférence ou de la cruauté. Il était toujours extrêmement ardu de prendre certaines décisions, et le fait de pouvoir en parler avec un confrère qui partageait votre façon de travailler se révélait une aide irremplaçable. Je démarrai donc sans avoir vu mon assistant. Maïté était au rendez-vous, pleine de vitalité et tout sourire. J'étais loin d'être dans la même disposition d'esprit. Je n'avais pas vraiment dormi. Seulement de brefs moments d'inconscience peuplés de visions désagréables, alternés à d'autres moments plus longs d'une conscience, elle, envahie d'images encore plus lugubres. Laurent était agité. Il ne cessait de remuer en se plaignant doucement. J'avais dû le secouer vers 3 heures du matin, alors que sa respiration haletante et le mouvement désordonné de ses mains témoignaient d'un cauchemar insupportable. Heureusement, Quentin était resté dans son lit. Je commençais donc accompagné de Maïté et d'Elisabeth. Mehdi, que je croisais dans le couloir, me chuchota d'un air entendu. « Vous ne pourrez pas vous plaindre, monsieur, on vous a donné les plus belles. » Je souris et entrai dans la première chambre. Maïté interrogea le malade, l'examina, fit des prescriptions que je corrigeai légèrement en lui expliquant pourquoi. L'infirmière prenait note diligemment dans ses cahiers. Je m'aperçus qu'Elisabeth Tailleur observait l'interne à la dérobée, cherchant sans doute un défaut dans l'élégante silhouette et se désespérant de ne pas en trouver. Pourquoi les femmes devaient-elles se gâcher la vie de cette manière? Cela m'a toujours paru incompréhensible. Maïté était sûre d'elle, un peu trop à mon goût, mais tant qu'elle ne se laissait pas emporter et ne se trompait pas, je ne pouvais certes pas lui reprocher son aplomb. Ce que je me permettrais de lui dire en privé, par contre, était qu'elle ne devait jamais oublier d'avoir en face d'elle un être humain et pas un amas de chair complètement idiot. Elle donnait peu d'explications aux patients, les assommait de termes médicaux qu'ils ne saisissaient pas, et s'étonnait qu'ils me redemandent un éclaircissement dont elle venait, selon elle, de les gratifier. Nous étions à peine arrivés dans la seconde chambre quand 2 coups légers furent frappés à la porte qui s'entr'ouvrit. Michael passa très rapidement sa tête, salua et me demanda si j'avais un instant. Je sortis, disant à Maïté de poursuivre sans moi. Michael ne m'avait pas attendu, et je le rattrapai sur le seuil de notre bureau où il pénétra sans un mot. Je refermai la porte et me mordis les lèvres lorsque je vis enfin son visage. Il avait les lèvres tuméfiées, un hématome sur la pommette droite et des yeux où se lisait une fatigue extrême. « Seigneur !» fut la seule chose qui me vint à l'esprit. « J'ai passé la nuit au commissariat, » commença-t-il, alors qu'il se jetait dans son fauteuil. « Je suis vanné. » « Qui t'a fait cela ?» « Un amant de Sébastien. Il nous a découvert ensemble lapin bleu et il n'a pas apprécié. » « Tu veux dire que ce Sébastien jouait sur 2 tableaux ?»«
Ah, j'aime bien l'expression, » ricana Micha amer.
Plus que jouer sur 2 tableaux, il devait foutre à droite et à gauche, ce qui en soi n'a rien de tellement exceptionnel. Tu sais très bien que nous ne sommes pas des monstres de fidélité, mais jusqu'ici, je n'avais jamais eu à payer physiquement les conséquences d'un tel comportement.
« Tu as mal ?» demandai-je en palpant avec délicatesse la joue blessée.
« Rien que pour tes mains sur moi, je me ferais frapper tous les jours, » essaya de plaisanter Michael. Mais le ton n'y était pas.
« Tu as passé une radio ?»«
Non, je n'ai rien de cassé, c'est inutile. »«
Tu l'as dénoncé ?»«
Quelle question, bien sûr. Je t'ai dit que j'arrivais du commissariat, » répéta Micha avec un peu d'impatience.
« Tu veux rentrer chez toi ? Je m'arrangerai. »
« Non, je voudrais seulement que nous racontions la même histoire. J'ai été agressée hier soir en rentrant du cinéma, on m'a volé mon portefeuille et je n'ai pas vu le malfaiteur. »«
D'accord.
Il n'a pas beaucoup d'imagination, mais il a raison. S'il ne veut pas étaler sa vie sexuelle au grand jour, ce n'est pas toi qui vas lui donner tort, non ? Je suis désolée de t'avoir interrompue. Comment se comporte-t-elle, Miss Madagascar?
Ni bien ni mal, elle connaît son boulot, mais selon moi, elle n'arrive pas à la cheville d'Aline Aubert ou de Julia Couturier.
Tu l'aimes bien, la petite couturier, hein?
N'est pas un secret.
Julia Couturier, interne en dernière année de spécialisation en médecine interne, était une longue jeune femme maigre qui ne savait jamais que faire de ses grands bras, qui trébuchait dans ses propres pieds, était d'une timidité maladive et portait une blouse qui, même lorsqu'elle venait tout droit de la blanchisserie, semblait avoir été repassée un mois auparavant. Elle perdait complètement les pédales lors des grandes visites quand le patron lui demandait son avis et n'osait pas regarder Michael en face, on ne sait pourquoi d'ailleurs. J'étais le seul qui ne perdait pas patience devant sa gaucherie et qui lui avait avoué combien il admirait la gentillesse et la compréhension qu'elle prodiguait aux malades. Elle avait entre autres une excellente préparation médicale qui malheureusement ne sautait qu'aux yeux de qui prenait son temps pour l'écouter et oubliait ses maladresses.
Tu as de la chance, c'est elle qui est partie avec tes malades. Tu devrais la rejoindre.
Mais si tu préfères, je t'envoie la miss.
Non, je suis moins bête que j'en ai l'air, je garde la couturier.
Mon dernier patient était un homme de 70 ans qui provenait des Trois Tilleuls, un institut privé qui accueillait les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Monsieur Louis Perret avait contracté une bronchopneumonie et les tilleuls n'étaient pas suffisamment équipés pour affronter ce genre de pathologie. Il avait été transféré la veille au soir. Et je ne l'avais pas encore vu. Quand nous entrâmes, il était assis sur son lit et lisait le journal.
Bonjour, monsieur Perret.
Oh, bonjour, docteur, fit l'homme en repliant le quotidien avec soin. Je suis le docteur Mouret. Nous aurons l'occasion de nous voir souvent durant votre hospitalisation. Comment vous sentez-vous?
Le vieux monsieur expliqua clairement les symptômes de sa maladie, la date de leur apparition et le traitement qu'il avait reçu jusque-là. Tout correspondait à ce que m'avait écrit le collègue des Tilleuls dans la lettre qui accompagnait Louis Perret. L'Alzheimer n'avait pas encore fait des ravages trop cruels dans le cerveau du vieillard, et ce dernier coopérait avec gentillesse à sa propre visite. Lorsque j'ôtai sa veste de pyjama pour le sculpter, je notai des ecchymoses au niveau des côtes et des bras.
« Comment vous avez-vous procuré ces bleus, monsieur Perret ?» demandai-je sur un ton désinvolte.
« Je ne sais plus, » répondit-il vivement, un peu trop vivement.
Tu n'as vraiment pas de chance, Alexandre.
Mon fils m'a dit que
quand vous avez des trous de mémoire?
Proposai-je en mettant une main rassurante sur une des épaules étonnamment musclées de Louis.
Oui, c'est cela, quand j'ai des vides. Je m'agite, je deviens agressif et je tombe souvent.
Je ne me souviens pas.
L'angoisse transpira sous les derniers mots.
Pensez-vous réussir à vous lever malgré votre fièvre?
Oh, je n'en ai pas beaucoup. Je tiens encore debout, vous savez, docteur, protesta l'homme avec fierté.
J'en étais certain. J'aimerais vous faire un examen neurologique. Vous savez, du genre fermer les yeux, se toucher le nez, tenir sur une seule jambe, me serrer la main très fort.
Oui, j'ai compris. Allez-y.
L'examen ne mit en évidence aucun trouble capable d'expliquer les chutes répétées de Louis, et son état mental actuel ne faisait présager aucune crise de la violence décrite par le fils. J'aidai le patient à s'étendre. Il était un peu essoufflé et j'attendis un instant qu'il se reprenne avant de continuer mes questions.
Comment vous trouvez-vous aux Trois Tilleuls, monsieur Perret?
Vous y êtes déjà allé, docteur?
Quelquefois, oui.
C'est luxueux, mais c'est triste.
Si vous aviez l'occasion de vous faire dire par une voyante la façon dont vous mourrez, le feriez-vous?
Je secouai la tête.
On ne m'a pas demandé mon avis. On m'a mis au tilleul parce que je suis atteinte de cette saloperie et j'ai vu ma mort en face. C'est décourageant.
Vous ne pouvez pas faire semblant d'être incapable de guérir mes poumons et me laisser mourir? Demanda sérieusement Perret.
J'ai peur que ce ne soit pas possible, non?
Mais ce que je peux faire, c'est parler avec votre famille et leur proposer des aides à domicile afin que vous puissiez rester chez vous, tant que ce sera possible.
Ils n'accepteront pas.
Dommage. Si j'étais restée chez moi, j'aurais pu continuer à bricoler.
Je m'étais assise sur le lit et du coin de l'œil, je vis Maïté consulter sa montre. Je serrai les dents.
Que faisiez-vous comme métier, monsieur Perret?
J'étais ébéniste, meuble d'art.
Je vous envie, je ne sais rien faire de mes 10 doigts.
Vous êtes doué d'une autre façon. Il n'y en a pas beaucoup de docteurs qui s'asseyent sur le lit de leurs malades et qui perdent leur temps à discuter avec eux.
Louis Perret leva les yeux vers l'interne et la dévisagea longuement. J'espérais qu'elle rougissait.
Ce que vous dites est très gentil. Je parlai encore un peu avec le vieil homme, puis lui promis que je reviendrai dans l'après-midi. Je signalai à l'infirmière d'ajouter un anxiolytique 3 fois par jour, afin d'alléger, peut-être, l'angoisse de cet homme qui avait lu son futur. Au sortir de la chambre, je me heurtai à Madame Gaudin, la surveillante. « Oh, excusez-moi, monsieur, je vous cherchais justement. Dans mon bureau, j'ai la famille du petit vieux que vous venez de visiter. Ils veulent des nouvelles. Pourquoi ?»« Ils sont pressés d'hériter, » fis-je sèchement. « Je ne comprends pas, » balbutia la surveillante décontenancée. « Je dois passer un coup de fil. Envoyez-les-moi dans 10 minutes. »« Comme vous voulez. » Madame Gaudin disparut, laissant derrière elle une traînée d'eau de Cologne bon marché. « Je dois venir avec toi, » demanda Maïté. « Tu as mieux à faire ?» aboyai-je. Je n'attendis pas la réponse. Une fois dans mon bureau, je me fis passer le médecin des tilleuls qui avait signé la lettre de transfert et discuté avec lui pendant un bon moment. Quand je raccrochai, Maïté ouvrait la porte à la femme et au fils de Louis Perret. Je leur désignai un siège. « Comment va mon père ?» Le jeune Perret ressemblait à son géniteur. Petit, râblé, la mâchoire volontaire, mais les yeux étaient froids et n'avaient rien de la bonté que j'avais lue dans ceux de Louis. Il n'y avait rien non plus de la détresse de bête traquée que j'apercevais dans le regard de Madame Perret. La femme se tordait les mains en jetant des coups d'œil inquiets tour à tour à son fils et à mon thorax. Elle ne m'avait pas encore regardé en face. Elle semblait plus vieille que son mari et beaucoup plus fragile. De longs pendants d'oreilles allongeaient ses lobes fripés. « Comment va mon père ?» insista le fils. « Ce n'est pas sa bronchopneumonie qui m'inquiète, » répondis-je posément, « mais son état dépressif et... « les blessures que j'ai rencontrées sur son corps, » ajoutai-je en fixant père et fils. « Il tombe quand il perd la tête. »« Chez vous alors, parce qu'au tilleul, il n'est jamais tombé. » Les mains de la vieille dame torturèrent le tuyau du manteau qu'elle n'avait pas ôté. « Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ceux des tilleuls. »« Votre père n'est pas arrivé à un stade d'Alzheimer où les crises d'agressivité sont fréquentes, et son examen neurologique ne montre pour l'instant aucun trouble particulier. » Je suis certain qu'il oublie beaucoup de choses, que son comportement est parfois illogique, mais je ne crois en aucun cas qu'il se soit fait ses hématomes en tombant. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» cracha le fils en se levant à demi, le cou tendu vers moi. J'insinue que voir les gens qu'on aime se transformer en des êtres inconnus, irritants, dangereux, est une expérience intolérable. « Tu as un accent de douloureuse conscience. » Que parfois il est infiniment difficile de contrôler la frustration qui nous étreint et que nous nous laissons aller à certains gestes que nous regrettons par la suite. Personne ne nous prépare à certaines épreuves. Un père devrait rester un père, un mari devrait rester un mari, et une femme une femme. Malheureusement, il n'en va pas toujours ainsi. Je ne frappe pas mon père. Le médecin des tilleuls affirme qu'il a noté plus d'une fois ce genre de marque après un retour de permission le lundi matin. Il ment, souffla le fils têtu. Je n'ai pas l'intention de discuter avec vous, répliquai-je sans hausser le ton. Je désire vous aider et aider votre père. Lui aimerait rentrer à la maison pour pouvoir bricoler. La femme de Louis eut un petit cri, vite étouffé. Nous pouvons demander une aide à domicile qui vous évitera d'avoir à tout supporter sur vos propres épaules. Si vous préférez le laisser au tilleul, nous devrons envoyer les services sociaux contrôler la façon dont vous vous occupez de lui durant les permissions. Si vous n'acceptez ni l'une ni l'autre de ces solutions, je serai contraint à prévenir la police. Je ne voulais pas menacer, mais je ne voulais pas non plus permettre au fils de Louis de maltraiter son père, même si je comprenais que la situation était difficile. Elle le deviendrait toujours plus, et tout cela risquait de finir avec un de ces meurtres qu'on lit dans les journaux. Un fils qui ne supportait plus la maladie de son père le tue d'un coup de carabine. Allons-nous-en, fit père et fils, en saisissant sa mère par la manche. « Je voudrais parler au docteur, » supplia la vieille dame. Son garçon la lâcha avec un geste de dépit et claqua la porte en sortant. « Il n'est pas méchant, docteur, vous savez. Il aimait beaucoup son père. Ils travaillaient ensemble. Et maintenant, il ne faut pas appeler la police. Je le ferai raisonner. »« Je ne souhaite rien d'autre, madame, croyez-moi. Mais les services sociaux, eux, ils parleront avec la police. Je parlerai avec l'assistante sociale et nous verrons ce qu'il est possible de faire. » Sans nuire ni à votre fils ni à votre mari. Merci, docteur, merci. La dame se leva et quitta la pièce à pas lents. Tu peux respirer à présent. Tu as retenu ton souffle pendant tout le colloque. Oh, Alexandre, si tu avais toujours été aussi inspiré, tu aurais fait de grandes choses. Maïté ne fit aucun commentaire. Moi non plus. Je la priai de me laisser et je crois qu'elle obéit volontiers. J'appuyai mes coudes sur la table et enfuis mon visage dans mes mains. Je comprenais la douleur de l'un et de l'autre et ces deux douleurs m'écartelaient. La sonnerie du téléphone me fit sursauter. Julia Couturier, qui était de garde, venait d'accueillir un adolescent qui provenait du SAMU et avait besoin de moi car elle n'avait jamais été confrontée à un cas semblable. Elle ne voulait pas interrompre Michael, qui n'avait pas encore terminé sa visite.